Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce mardi soir 29 décembre 2020. On va vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Les trois pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs iraniens soulignent la nécessité d'endiguer et de briser les sanctions. Un convoi logistique de la coalition américaine a été visé dans le sud de l'Irak et trois soldats français ont été tués en opération au Mali. C'était les titres, en voici le journal. Les chefs des trois pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs de la République islamique d'Iran se sont rencontrés lundi 28 décembre. Leur rencontre était axée sur la stratégie de briser les sanctions et en endiguer les effets, le projet de loi du budget 1400, l'année iranienne qui commence à partir de la fin mars, et le vaccin anti-Covid-19. Le chef du pouvoir exécutif, le président Hassan Rouhani, a déclaré: le peuple iranien a un brillant bilan, et cela sur deux scènes. La résistance face à la guerre économique et aux sanctions inhumaines des États-Unis et la lutte contre le coronavirus. Le peuple iranien a su réaliser de grands succès en étant en harmonie avec le gouvernement, en faisant preuve de la résistance et en mettant en œuvre les protocoles sanitaires. Le chef du pouvoir législatif, Mohammad Bagher Ghalibaf, a pour sa part déclaré que le budget de l'année prochaine se focalise sur certaines questions cruciales telles les moyens de subsistance, la santé, la prise en charge des démunis et des défavorisés, la privation et la production. Et pour sa part, le chef du pouvoir judiciaire, Ebrahim Raisi, a espéré: fort de ses grandes ressources matérielles et spirituelles et de sa jeune génération, l'Iran sera capable de surmonter tous ses problèmes. Une fois de plus, un convoi logistique de la coalition américaine a été visé dans le sud de l'Irak. L'explosion fait suite aux nombreuses autres qui se sont produites au cours du mois écoulé contre les convois américains. Tout ceci sur fond de l'indignation du peuple irakien contre la présence destructrice des États-Unis en Irak, ayant atteint son apogée suite à la grâce présidentielle de Trump accordée aux agents de Blackwater ayant massacré des civils irakiens en 2007. Une source de sécurité irakienne a fait état lundi, 28 décembre, de l'explosion d'une bombe en bordure de route sur le trajet d'un convoi logistique de la coalition américaine dans la province d'Al-Divaniya, dans le sud de l'Irak. N'ayant pas fait de victimes ni de pertes matérielles, selon la source, l'explosion est similaire à celle produite le 26 décembre contre un convoi logistique américain sur la route internationale de Bagdad. Restons en Irak, où les forces de l'armée ont célébré lundi 28 décembre le 100e anniversaire de sa formation. Un nombre d'avions et d'hélicoptères ayant réalisé une manœuvre aérienne dans le ciel de Bagdad, capitale irakienne. Ont réalisé une manœuvre aérienne dans le ciel de Bagdad, capitale irakienne. Des sources d'information affirment que les avions de combat F-16 Suhoi, divers hélicoptères de combat et de transport ainsi qu'un nombre d'avions de ravitaillement C-5 Galaxy ont pris part à la manœuvre, tandis que d'autres entrent plus dans les détails et font état du déploiement de 24 avions de chasse, de 30 hélicoptères russes Mi-17 et de 35 hélicoptères dont dispose l'armée irakienne. Afin de se préparer au défilé aérien du lundi, les hélicoptères de l'armée irakienne ont effectué la veille des vols d'entraînement dans le ciel de la capitale. Mais la cérémonie du 100e anniversaire de la fondation de l'armée irakienne a eu lieu alors que les experts militaires critiquent les opérations effectuées par les drones américains avec pour mission de prendre le contrôle de l'espace aérien irakien. En Syrie, les habitants de Asaké ont attaqué inopinément par des jets de pierre lundi 28 décembre une patrouille américaine en criant « Occupants, sortez ». L'apparition d'une patrouille militaire américaine dans la province syrienne de Asaké a confronté les troupes américaines à de graves défis. Des dizaines de pierres ont été jetées sur les véhicules blindés américains dont les armes à bord ont subi de sérieux endommagements. Une des pierres a abîmé le viseur placé sur la tourelle du canon, tandis que plusieurs autres ont touché des armes et les ont désactivées. Trois soldats français ont été tués lundi 28 décembre dans l'explosion d'une bombe artisanale dans la zone des trois frontières au Mali, où la force française Barkhane est en mission. Le décès de ces trois soldats français porte le total des soldats morts à 8 en 2020 et à 47 depuis le début de l'engagement de la France au Mali en 2013. L'attaque a eu lieu lundi matin au retour d'une mission de ravitaillement en vivres, en eau, en carburant et en ressources logistiques pour la base de Hombori. Dans ce poste sont stationnées des forces françaises et maliennes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué lundi la tenue des élections présidentielles et législatives dimanche au Niger et a félicité le gouvernement et le peuple nigérien pour leur déroulement pacifique. Dans un communiqué, M. Guterres a également félicité les forces de sécurité et de défense nigériennes pour leurs efforts ayant visé à assurer un environnement sûr le jour des élections. Le Niger a voté dimanche lors d'élections présidentielles et législatives qui pourrait voir la première transition démocratique du pouvoir dans ce pays ouest africain depuis son indépendance, dans un contexte de menace croissante des terroristes dans la région. Le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a mis en garde dimanche 27 décembre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, sur les activités militaires effectuées à proximité des frontières de la Russie, affirmant que Moscou répondait au déploiement de missiles américains en Europe. Les menaces de recourir à la force constituent une violation directe de la Charte des Nations Unies. De telles actions ne resteront pas sans une réponse appropriée de notre part. Nous sommes toujours partis du principe que les problèmes les plus complexes doivent être traités à la table des négociations, a déclaré Alexandre Fomine. En référence aux appels de la ministre allemande de la Défense, au Bundestag, Alexandre Fomine a vivement conseillé de ne point essayer de traiter la Russie en position de force. Le ministre allemand de la Défense a récemment déclaré que la modernisation des armes militaires par la Russie devenait si évidente et que Berlin devrait maintenir un niveau élevé de dépenses militaires pour contrer la menace posée par Moscou. M. Fomine a également évoqué les actions américaines et déclaré que Moscou sera déterminé à riposter si les États-Unis déploient de nouveaux missiles en Europe. Les remarques du haut responsable russe sont intervenues alors que les bombardiers stratégiques américains ont effectué plus de 15 vols près de la frontière russe rien que pour les mois d'août et de septembre 2020. Par la suite, le président russe Vladimir Poutine a appelé son ministère de la Défense à répondre immédiatement, le cas échéant, au déploiement de missiles par les pays occidentaux près de l'espace aérien de la Russie. Et pour fermer le journal, âgé de 63 ans, Anthony Warner, principal suspect du récent attentat à la bombe dans le centre-ville de Nashville, a été tué dans l'explosion, ont affirmé les autorités fédérales américaines. Des centaines d'agents de police fédéraux et locaux ont travaillé pour mener une enquête sur l'affaire ayant nommé dans la nuit du dimanche 27 décembre Anthony Warner comme l'auteur de l'attentat à la bombe dans le centre-ville de Nashville, capitale du Tennessee. Il était présent lorsque la bombe a explosé et il a péri dans l'attentat, a déclaré Don Cochran, procureur américain pour la jurisprudence de la Cour de district fédérale du Tennessee. Loin d'être prêt d'indiquer s'il s'agit d'un attentat terroriste, les responsables américains ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que quelqu'un d'autre était impliqué dans l'explosion. Les enquêteurs insistant que l'explosion était probablement un attentat suicide. Survenu tôt dans la matinée du vendredi 25 décembre, jour de Noël, dans la ville de Nashville, l'explosion d'un camping-car a blessé au moins 8 personnes et endommagé plus de 40 bâtiments, y compris un bâtiment de transmission AT+T qui fournit un service sans fil dans une grande partie de la région. Au moins 2 autres actes suspects de Warner ont été signalés à la police fédérale avant l'explosion. Mais c'est seulement maintenant que la police fédérale dit qu'elle mène des enquêtes sur environ 500 pistes en déployant 250 agents et analystes. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Londres impliqué dans l'assassinat du général du corps d'armée Qassem Soleimani. Le secrétaire général du mouvement Asaïb al-Haq d'Irak a fait part de l'implication d'une entreprise de sécurité britannique ayant décroché un contrat avec l'aéroport de Bagdad dans l'assassinat le 3 janvier 2020 du général de corps d'armée Qassem Soleimani et du numéro 2 d'Hashd al-Shaabi Abu Mahdi al-Muhandis. Le secrétaire général du mouvement Asaïb al-Haq, Raïs al-Khazali, a affirmé que la société britannique G4S, chargée de la sécurité de l'aéroport de Bagdad, avait eu un rôle dans l'assassinat de Soleimani et al-Muhandis. Selon ce responsable irakien, la société G4S a participé à une partie de la mission consistant à approuver la cible, à savoir le général Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis, dans le cadre de la réalisation de l'opération d'assassinat. La procédure habituelle à l'aéroport de Bagdad exige la présence de la société G4S à un endroit précis, près du lieu d'atterrissage de tout avion à l'aéroport. Mais ce jour-là, le jour où les commandants martyrs ont été visés, la voiture de la société G4S s'est arrêtée. Et c'était une première, tout juste avant l'espace réservé aux passagers, ce qui signifie qu'une mission spéciale lui avait été confiée. En effet, les déclarations de Raïs al-Khazali font partie d'un documentaire avec pour titre « Al-Rihla al-Akhira », qui veut dire en arabe « le voyage ultime » et qui traite le lâche assassinat du commandant en chef de la force Quds, du corps des gardiens de la révolution islamique et de son camarade de combat irakien. Dans une partie de ce documentaire, l'on voit des images enregistrées par les caméras de surveillance de l'aéroport de Bagdad le jour de l'assassinat. L'enregistrement vidéo montre le moment où la voiture de la société sécuritaire G4S bouge dès lors que l'avion avec à son bord le général Soleimani atterrit sur la piste de l'aéroport. Ces images montrent que la voiture en question, au lieu de s'arrêter à l'endroit déterminé, avance vers l'avion, reste un petit bout de temps devant l'escalier de l'avion et ensuite quitte l'endroit. Les officiers de la sécurité nationale irakienne ont découvert quelque temps avant cet événement à l'intérieur de l'aéroport de Bagdad des caméras de surveillance installées de façon à ce que leur partie antérieure soit placée en direction de l'entrée réservée aux voyageurs VIP. Les officiers ont enlevé ces caméras, mais la raison de cette mesure n'a pas alors été connue, indique Raïs al-Khazali qui ajoute « Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai établi ma propre analyse en ce sens que cette mesure aurait pour but d'observer et de surveiller ceux qui entrent en Irak et rien de plus. c'était inimaginable qu'une opération terroriste allait se produire sur le territoire irakien et à l'aéroport de Bagdad. En fait, l'analyse des circonstances politiques ne permettait absolument pas qu'une telle version des faits puisse concevoir à l'esprit. Et plus tard, il s'est avéré que cette mesure faisait partie des actions logistiques préliminaires afin de mener l'opération d'assassinat. Nulle part au monde, des services de renseignement à l'échelle internationale, comme la CIA aux États-Unis, ne mènent aucune opération, à moins que la cible soit à 100% en position indispensable à la réalisation de leur mission. Plus d'un moyen a été utilisé afin de se rassurer de cette question dans le temps et lieu déterminé. Les forces terroristes américaines ont assassiné le 3 janvier 2020, près de l'aéroport de Bagdad, le commandant en chef de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général du corps d'armée Rassem Soleimani et le chef adjoint des unités de mobilisation populaire, Ashd al-Shabi, Abu Mahdi al-Muhandes.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Ces derniers jours, les autorités américaines, dont le président sortant Donald Trump, ont eu des accusations sans fondement contre la République islamique d'Iran au sujet de cette attaque menée contre l'ambassade US à Bagdad. Y réagissant, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que Trump ne pouvait pas détourner l'attention de ces échecs catastrophiques en mettant ses propres citoyens en danger à l'étranger. Il y a eu également cette prise de position du ministère iranien des Affaires étrangères de la part du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui a réagi à ces accusations sans fondement remises en avant ces derniers jours par les autorités américaines contre l'Iran, tout en rejetant les accusations sans fondement et montées de toutes pièces de Donald Trump et du commandement central de l'armée américaine dans la région. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, les attaques contre des locaux diplomatiques et résidentiels sont inadmissibles dans la politique étrangère de Téhéran. Dans le contexte actuel, la République islamique d'Iran tient le gouvernement américain responsable des conséquences de toute action imprudente à prévenu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Pour ce débat, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Paris un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Habib Tava. M. Tava, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de me recevoir.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un autre analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui est en ligne avec moi pour cette émission. Je rectifie, je procède à une rectification. C'est un géopoliticien et belge des questions internationales. Il s'agit de M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à mon collègue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
C'est un plaisir partagé. Luc Michel, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Première question, comment évaluez-vous ces récentes, si vous voulez, accusations montées de toutes pièces des autorités américaines, très particulièrement du président sortant américain Donald Trump contre l'Iran, s'il vous plaît?
Écoutez, Donald Trump est égal à lui-même. Il a, depuis 4 années, semé le chaos dans les institutions internationales, il a semé le chaos dans l'ordre géopolitique international. Et on a l'impression, mais je pense que c'est plus qu'une impression, qu'il essaye de créer, moi j'appelle ça des mines géopolitiques, il essaye de miner le terrain pour que son successeur, évidemment, se voie la tâche compliquée. Les États-Unis ont échoué en Irak et ils ne veulent pas se résoudre à cela. Et tout est bon, évidemment, pour que les États-Unis soient maintenus dans cette voie sans issue dans laquelle ils se sont engagés avec Trump.
Pierre Dortillier, venez d'entendre les explications de Luc Michel. Votre analyse, s'il vous plaît. Nous avons perdu, malheureusement, notre liaison avec Toulouse. Excusez-moi, notre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est pas M. Dortillier. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je confonds aujourd'hui, en fait, M. Dortillier avec Luc Michel ou bien avec l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est M. Habib Tavar. On va partir tout de suite à Paris pour le rejoindre. M. Tavar, votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, d'abord, je souhaite un joyeux Noël, puisque c'est aujourd'hui Noël, à tous les gens qui s'estimeraient concernés. Et je rapproche ce fait du fait que le président Trump veut évidemment faire un effet d'annonce le jour de Noël, qui pour les Américains est très important. Et dans quelques heures, ils vont se réveiller aux États-Unis. Et donc, il veut jouer aux gentils qui protègent contre les méchants iraniens, etc., etc. Il y a un rapport de cause à effet. Il y a le fait aussi que au Liban, l'homme des États-Unis, Hariri, a essayé de former un gouvernement en annonçant qu'il serait formé avant Noël, et il n'a pas réussi non plus. Donc ils sont un peu embêtés, ils sont coincés, ils ont envoyé des B-52 au Proche-Orient pour faire peur à l'Iran, ils ont fait rentrer près du Golfe Persique ou dans le Golfe Persique porte-avions, ils ont fait rentrer un sous-marin nucléaire, un tas de menaces. Et tout ça converge pour dire, voilà, moi je vous protège, le jour de Noël, c'est le jour qui est le plus important pour les Américains, etc. Et je suis là, et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc le fait qu'il y ait eu une attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad tombe tout à fait à point pour permettre aux Américains, aux CENTCOM, etc., d'aboyer. Ça, c'est un premier point. Un second point que l'on pourrait ajouter sur cette histoire-là, c'est le fait que aujourd'hui les Américains sont un peu dans une impasse, parce que je doute personnellement qu'il y ait de grandes modifications entre la politique américaine de Biden ou de Trump. En réalité, c'est l'État profond qui gère dans les deux cas. Et les deux veulent à la fois instrumentaliser l'Iran en l'utilisant comme un méchant, et deuxièmement, le mettre à genoux. Alors ils ont assassiné, comme vous le savez, le grand spécialiste de recherche nucléaire iranien. Il y a un an, ils ont tué le général Soleimani. Et donc ils essayent d'affaiblir, de déstabiliser l'Iran, qui, je crois, tient bon la route. Et puis, je n'ai pas une grande inquiétude sur ce qui va arriver.
Et les Américains sont embêtés, pour reprendre Luc Michel l'expression de Habib Tava, ils sont coincés, ils sont dans l'impasse également sur le plan de la politique intérieure. C'est pourquoi ils avancent en fait de telles accusations contre l'Iran. Luc Michel, partant de ce principe, peut-on dire que les États-Unis en fait se livrent actuellement à une politique de la fuite en avant, en avançant de telles accusations contre l'Iran?
C'est exactement ça. On a, et ce n'est pas une impression, vis-à-vis de l'Iran, c'est une hystérie réellement qui est menée par les États-Unis. Ce n'est plus une politique qui est rationnelle, et à cela s'ajoute l'irrationalité qui est dans le caractère de Trump lui-même. On a quitté, avec Obama, on pouvait faire tous les reproches qu'on voulait, mais il y avait une certaine logique dans ce qui se passait. La logique, c'était celle encore du grand échiquier géopolitique de Brzezinski. Avec Trump, on est arrivé dans une géopolitique, j'ai appelé ça la géopolitique des tables de poker. On tente des coups de poker géopolitiques, on tente des coups de bluff, et on essaye de faire une série de banco. Ça marche, ça ne marche pas. Généralement, ça a très peu marché, si vous suivez le bilan de Trump. Et évidemment, les États-Unis, avec ça, sont dans une impasse. Ils se sont fâchés avec leurs propres alliés. Ils se sont fâchés, évidemment, avec à peu près une très grande partie de la planète. Et donc, au Proche-Orient en particulier, ils sont engagés, ils sont dans un échec en Irak, ils sont dans un échec en Syrie. Et donc, ça explique un peu cette fuite en avant. Je vous le répète également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la volonté de Trump de créer l'irréversible.
Luc Michel,
dans un conflit dont on ne sorte pas.
Luc Michel, excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que les Américains se sont fâchés également avec leurs propres alliés. De qui les alliés parlez-vous exactement?
Écoutez, il est bien certain qu'il y a une fracture actuellement au sein du bloc américano-atlantique. Ça a toujours existé, la contradiction de l'Alliance Atlantique, c'était que les alliés géopolitiques principaux, les pays de l'OTAN, c'était l'adversaire économique principal, l'Union européenne. Cette guerre commerciale, elle n'est pas née avec Trump. Elle est née dans le début des années 1980. Elle s'est doublée d'une guerre financière entre l'euro et le dollar. Jusque-là, on s'accommodait de cela, en Afrique particulièrement ou au Proche-Orient. Et puis Trump a exacerbé les choses, il a déclaré que la guerre commerciale c'était facile et facile à gagner avec cette espèce de forfanterie qui lui est habituelle. Et aujourd'hui il y a une série de fractures. Il y a une fracture en Afrique par exemple entre les États-Unis et la France, alors que leur alliance est indispensable à l'OTAN, au Proche-Orient. Il y a une fracture entre les Turcs et les Français. Il y a toute une série de choses, et maintenant, on assiste en plus à cette espèce de... Moi, je ne vois pas un grand avenir. Il y a cet axe qu'on a créé, rendant apparent ce qui était caché jusque-là, l'alliance honteuse des monarchies réactionnaires arabes avec Israël. Une fois qu'elle est officielle, elle a apporté également des césures. Il faut voir, par exemple, le cas du Maroc. Le roi du Maroc a cru qu'il faisait une bonne affaire en obtenant, grâce à sa reconnaissance d'Israël, le Sahara espagnol. Mais la société marocaine est profondément fracturée là-dessus. Moi qui suis la presse régulièrement marocaine, je vois pour la première fois des piliers du système marocain critiquer le roi. Et donc, ce système-là, ça ressort. La politique internationale de Trump, elle ressemble à un champ de ruines. Mmh. Il y a le champ de ruines avec les adversaires, ça c'est logique, mais encore que l'aggravation de la politique anti-russe ou anti-chinoise, elle n'a pas conduit à un renforcement des positions américaines, mais au contraire de ses adversaires. Et maintenant, il y a ce grand froid qui existe au milieu du bloc, notamment à l'OTAN, mais pas qu'à l'OTAN. Il y a également un froid qui existe avec les alliés africains de Washington. Et quand on suit cette affaire, tout cela ne répond plus à aucune cohérence. Il n'y a pas une doctrine géopolitique comme il en existait avant. Au moins, on savait ce qu'Obama allait faire. On savait ce que les réseaux qui sont derrière lui allaient faire. Actuellement, ce n'est plus le cas.
Mmh. Happy Betava, les Américains qui sont embêtés et coincés, pour reprendre votre propre expression, dans l'état actuel des choses, ont envoyé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, leur B-52 dans la région. Ils ont envoyé également leur sous-marin nucléaire de l'USS Georgia dans le Golfe Persique, avec pour objectif d'intimider l'Iran. Mais l'Iran ne s'est pas laissé intimider par de telles de menaces. Loin de là, l'Iran tient pour responsable les États-Unis des conséquences de toute provocation et de toute aventure et de tout aventurisme militaire dans la région Habib Dava.
Oui, c'est tout à fait exact. Et en particulier, on oublie de le relever, mais par exemple, après l'assassinat du général Soleimani. L'Iran, pour la première fois, a bombardé la base Ayn al-Assad en Irak, où a tué probablement 80 Américains que, pour noyer le poisson, on a dit qu'ils étaient morts en Allemagne, aux États-Unis, s'étaient cassé la jambe, enfin, on a arrangé les chiffres. Mais effectivement, il y a eu 80 morts américains dans la base d'Ayn al-Assad. Et c'était la première fois qu'un pays attaqué directement, parce que l'assassinat de Soleimani était une attaque délibérée des Américains contre l'État iranien, puisque c'est quand même un représentant de l'État iranien qui était dans un pays étranger, c'est-à-dire en Irak, et qui a été assassiné de façon assez ignoble, finalement. Et en faisant cet acte, les Iraniens ont prouvé quoi? Ont prouvé, vous nous tapez, nous allons vous taper, nous vous taperons aussi fort que vous l'avez fait. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Quand, par exemple, il y a eu la guerre du Vietnam, les Vietnamiens n'ont pas osé aller s'attaquer aux Américains, les Nord-Vietnamiens, non. Et dans d'autres guerres où les États-Unis sont intervenus, en général, ils tapaient et puis ils n'étaient pas touchés directement, leurs alliés peut-être, leurs hommes de main certainement, mais pas directement les États-Unis. Or là, l'Iran a frappé directement une base américaine en tuant des Américains. Et ça, ça a été une première. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les Américains hésitent à frapper l'Iran avec les armes dont j'avais parlé. On a parlé aussi du porte-avions Nimitz. Bon, tout ça est venu pour faire de l'effet, pour faire du bluff. Les Américains sont souvent des bullshitters. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent fort, mais n'agissent pas. Donc, ils savent très bien que s'ils tapent l'Iran, il y aura des conséquences. Mmh. Et je pense que même pour ce qui concerne l'assassinat de l'universitaire iranien dont j'ai oublié le nom, je pense que même dans ce cas, en temps et lieu, l'Iran prendra sa revanche. Et les Américains savent ça. Ils savent que c'est la culture iranienne. Ce n'est pas une culture de gens superficiels. C'est des gens qui calculent, qui réfléchissent, qui prennent leur temps et qui agissent quand il faut. Mmh. D'où l'effet médiatique de l'Iran, pardon, des États-Unis face à la résilience, la résistance des Iraniens qui prennent leur temps et qui calculent. Et dans ce sens, je suis relativement optimiste pour l'Iran. Mmh. Voilà.
Luc Michel, Habib Tava vient de faire allusion à l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, de savant nucléaire iranien. Il a également fait allusion à cette riposte de l'Iran qui a attaqué la base d'Ayn al-Assad en Irak, en riposte à l'assassinat lâche du général de Qassem Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a été assassiné lors d'une frappe à l'aéroport de Bagdad, lors d'une frappe terroriste à l'aéroport de Bagdad, alors qu'il était en mission officielle. L'Iran a eu cette riposte d'une manière tout à fait ouverte. L'Iran a attaqué la base d'Ayn al-Assad, là, en fait, dit ouvertement et clairement. Et maintenant, dans l'état actuel des choses, les autorités américaines avancent des accusations contre de Téhéran, comme quoi cette récente attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad était l'œuvre de Téhéran. Luc Michel, si l'Iran décide un jour d'attaquer la base US à Bagdad, il va en fait de le faire ouvertement, et les Américains le sachent très bien. Alors pourquoi les États-Unis en fait cherchent à fabriquer de telles accusations montées de toutes pièces, Luc Michel, d'après vous?
Il y a deux phénomènes parallèles qui ne sont pas liés entre eux mais qui conduisent à ça. C'est que l'administration Trump, elle sous-estime depuis le début l'Iran. On a un peu l'impression que le regard qu'on a, c'est l'Iran d'il y a 15 ou 20 ans, c'est comme ça qu'il est vu à Washington. On croit que c'est une petite puissance qui n'a que des alliés de faible niveau, par exemple les Syriens ou les Hezbollah. Ils n'ont pas compris que l'Iran, c'était la troisième capitale émergente au sein de l'unification de l'Eurasie et qui a un axe Moscou-Pékin-Washington. Ça n'a pas été pris en compte. La deuxième chose, c'est l'incompréhension de la géopolitique par l'administration Trump, qui explique d'ailleurs beaucoup de problèmes de celle-ci, avec par exemple John Bolton, qui s'est fâché avec Trump et avec d'autres. Jusque-là, la géopolitique, c'était important, c'est ce qui guidait les projets américains, ce qu'on a appelé les projets pour des siècles américains, c'est ce qui guidait les États-Unis depuis le 19e siècle. On croit souvent que la géopolitique, elle a eu la réputation d'être une science allemande. En fait, c'est une science qui est née aux États-Unis, en Allemagne et en France. Depuis Trump, on a l'impression que cette vision n'est plus là. Brzezinski était le conseiller géopolitique d'Obama. Il n'y a pas d'équivalent de l'autre côté. On a un peu l'impression donc que la géopolitique qui éclairait la politique américaine et qui éclairait le chemin, on a un peu l'impression ici que Trump il marche sur le chemin en aveugle. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est ce que j'ai appelé la liquidisation de l'administration Trump, c'est-à-dire que des rapports privilégiés existent entre Trump et le Likoud, entre la famille Kouchner, le gendre de Trump, et Netanyahou. Il faut savoir que Kouchner, c'est un des hommes qui décide de la politique proche-orientale. Il y a des liens très proches entre Mike Pompeo et le Likoud également. Et tout cela conduit à une radicalisation vis-à-vis de l'Iran. Vous savez que l'Iran, c'est l'obsession de Netanyahou. Rappelons-nous les shows avec des faux graphiques, etc., aux Nations Unies. Et c'est ce qui se passe maintenant. Tant que c'était Israël, je dirais, qui faisait son show, ça n'avait pas de conséquences immenses. À partir du moment où les Américains marchent là-dedans, ça marche.
Merci beaucoup.
Il y a des extrémistes en Israël qui essayent de pousser Trump à un geste fatal avant qu'il s'en aille. Ils savent très bien que les rapports avec Biden, même si Biden est un sioniste, si Sullivan et Blinken qui vont diriger sa propagande sont des pro-sionistes, ils savent très bien qu'ils n'auront plus quelqu'un aussi en phase avec eux que Donald Trump, et d'où la tentation. On a même parlé de projet de déclencher une guerre contre l'Iran avant le départ de Trump. Ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, en sachant que les gens qui constituent l'administration Trump, ce sont des jusqu'au bout. Il y a Trump, évidemment. Vous avez vu, si vous voulez bien me laisser encore une phrase, vous avez vu que Trump est en train d'amnistier à peu près tout son entourage. Ça prouve que tous les gens autour de lui ont des choses à se reprocher, vont faire face à la justice. Et donc, il y a une tentation à créer l'irréversible pour ne pas répondre à ce qui se passe. Pompeo, par exemple, qui a trahi qui est l'ancien chef de la CIA d'Hillary Clinton et d'Obama, qui a trahi les réseaux d'Obama pour Trump, il sait que sa carrière est terminée. Ça n'aide pas tous ces gens à une politique de transition qui soit paisible ou pas. D'où la tentation, je vous l'ai expliqué, de laisser de véritables mines géopolitiques au Proche-Orient. Il y a la même théorie, d'ailleurs la même application qui se fait actuellement en Afrique.
Habib Tava, une dernière question, si j'ai bien suivi Luc Michel, il dit que voilà, on peut voir en fait de la piste israélienne dans ces récentes menaces américaines contre l'Iran, une piste qui a comme objectif en fait de pousser Donald Trump à déclencher une guerre contre l'Iran. C'est votre avis également?
Oui, c'est un peu aussi l'avis de Scott Ritter, qui était inspecteur des Nations Unies d'un Américain en Irak, et qui dit aussi qu'il y a une volonté de pousser à l'affrontement avec l'Iran. Mais je pense que l'État profond américain veut menacer l'Iran, éventuellement bombarder, mais ne voudra pas détruire le pouvoir et la réalité de l'Iran. Ce n'est pas, me semble-t-il, dans ses objectifs. Et j'en donne pour preuve plusieurs votes qui ont eu lieu par les chambres aux États-Unis il y a un ou deux ans, interdisant à Trump de déclencher une guerre avec l'Iran sans son aval. Il y a donc une certaine sagesse chez les Américains dans l'apparente folie qu'ils manifestent. Je crois qu'ils ne veulent pas
démolir l'Iran. Ils veulent peut-être l'embêter, le perturber, frapper des hommes importants chez lui, comme nous l'avons vu. Mais je pense que c'est une gesticulation, parce que tous les États du Golfe qui se sont ralliés à Israël récemment se sont faits parce que les Américains ont utilisé l'Iran comme un épouvantail pour ramener à eux tous ces États qui ont trahi la cause palestinienne du fait même de cette histoire-là.
Merci.
Donc la situation géopolitique est assez complexe et équilibrée.
Habib Etava, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Ici, le Moyen-Orient. Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission. La troisième conférence biennale internationale sur le pétrole, le gaz et la pétrochimie s'est ouverte le 28 décembre 2020 à l'université Golfe Persique de Boucher, au sud d'Iran, avec la participation des experts internationaux de 15 pays. Le secrétaire exécutif de la conférence internationale biennale sur le pétrole, le gaz et la pétrochimie a déclaré « Cette conférence scientifique de deux jours se tient virtuellement en raison de la pandémie du coronavirus. 180 articles scientifiques provenant de l'Iran, de l'Inde, de l'Irak et de la France, du Ghana, de la Roumanie, du Canada, de l'Autriche, du Nigeria, de l'Angleterre, de l'Écosse, du Japon, de l'Allemagne, de la Malaisie et du Kazakhstan ont été envoyés pour cette conférence internationale. Et toujours à propos de ces articles, s'agissant de cette conférence internationale, il a précisé que 80 membres du comité scientifique de la conférence sont des grands experts universitaires et industriels qui viennent de différents pays étrangers comme la Grande-Bretagne, l'Autriche, le Canada, le Singapour, le Qatar, les États-Unis, le Pakistan et la Norvège. Les États-Unis ont fait des pays voisins d'Iran des bases d'insécurité contre le peuple iranien, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le gouvernement américain a fait des pays voisins d'Iran des bases d'insécurité contre le peuple iranien, a déclaré Saïd Khatibzadeh. Lors de sa vidéoconférence hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous avons demandé à plusieurs reprises aux pays voisins et amis de faire preuve de leur responsabilité face aux actes perturbateurs anti-iraniens de la Maison-Blanche. Pourtant, nous n'hésiterons pas à propos de notre droit légitime de défense en vertu de la Charte des Nations Unies », a-t-il souligné. En ce qui concerne l'affaire près du vol d'Ukraine International Airlines, le porte-parole de la diplomatie iranienne a précisé « L'organisation iranienne de l'aviation s'occupe des aspects techniques de ce dossier et les responsables de cette organisation ont déjà rendu en vidéoconférence un bilan à la partie ukrainienne. Pourtant, le rapport complet sur le vol ukrainien sera officiellement présenté à Kiev », a-t-il souligné encore. faisant référence au premier anniversaire du martyr du général Soleimani, assassiné sur ordre direct du président américain Donald Trump dans un acte terroriste et lâche à l'aéroport de Bagdad, Khatibzadeh a souligné « Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne traduirons pas les auteurs de ce crime en justice. Le gouvernement américain doit être tenu responsable jusqu'au dernier jour », a-t-il précisé. Quant au plan de la coopération stratégique Iran-Chine, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « Ce plan est une feuille de route et un document stratégique entre les deux pays et les mesures nécessaires sont prises à ce sujet ». Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a écarté dimanche 27 décembre l'éventualité d'une agression israélienne contre la région. Lorsque vous entendez le vacarme médiatique israélien, sachez qu'il n'y aura pas d'action effective, a affirmé Seyed Hassan Nasrallah lors d'une interview de 4 heures accordée à la chaîne libanaise Al-Mayadeen. Et de révéler le nombre de missiles de précision de la résistance a doublé de ce qu'on possédait depuis un an. Il a également écarté le scénario catastrophe selon lequel le président américain Donald Trump, un fou furieux, puisse lancer une offensive contre la région au dernier jour de son mandat, soulignant que l'axe de la résistance devrait par contre rester prudent tout au long de ces deux semaines. S'agissant de l'assassinat du commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général martyr Rassem Soleimani, et du numéro 2 du Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi Mouhandes, Seyed Hassan Nasrallah a affirmé que les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite sont des associés dans ce crime. Il a également accusé l'Arabie Saoudite d'avoir incité à son assassinat depuis le début de la guerre saoudienne contre le Yémen. Le numéro 1 du Hezbollah a, dans ce contexte, révélé avoir reçu des informations et a appris que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, MBS, avait proposé cette question lors de sa première visite aux États-Unis après l'élection de Trump, et ce dernier a approuvé l'attribution de cette opération à Israël. Interrogé sur le soutien à la résistance palestinienne, Seyed Hassan Nasrallah a dévoilé que Zeb Soleimani, qui est derrière l'acheminement des missiles anti-chars Cornet à la bande de Gaza. Et d'ajouter, le président syrien Bachar al-Assad avait accepté de faire parvenir les Cornet qu'il avait achetés des Russes au Hamas et au djihad islamique dans la bande de Gaza. Et puis, concernant les accords de normalisation entre Israël et certains régimes arabes, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a affirmé qu'il n'avait pas été surpris. Ces régimes entretenaient depuis longtemps des liens secrets avec Israël. Mais ce qui diffère aujourd'hui, c'est que les masques sont tombés, a-t-il conclu. Le vice-premier ministre du gouvernement de salut national du Yémen a mis en garde contre toute bêtise que la coalition d'agression saoudo-israélienne commettrait en mer Rouge et qui déclencherait aussitôt une escalade totale. Ce serait une escalade totale avec en toile de fond en Israël et ses alliés arabes qui, déjà en manque de résultats au Yémen, risquent d'y mettre la peau, a dit Jalal al-Rouishan dans un entretien avec la chaîne de télévision yéménite Al-Masira. Le vice-premier ministre yéménite est chargé de la sécurité et de la défense. Il a dénoncé dans les termes les plus vifs les propos des officiels sionistes et a conseillé aux amis arabes d'Israël de ne pas de se laisser mener en bateau par un régime israélien aux abois. Le journal israélien Haaretz a annoncé samedi que les Émirats arabes unis d'Israël travaillaient à la construction d'une base militaire sur l'île de Yéménite occupée de Socotra, située au sud du Yémen, et ce sous prétexte de surveiller le trafic maritime dans le golfe Persique, en mer Rouge, en mer d'Oman, voire dans l'océan Indien. Faisant référence aux récentes remarques du leader yéménite Abdelmalek Al-Houssi, qui a très clairement affirmé frapper sans hésiter Israël au cas où les Israéliens commettraient une quelconque stupidité contre le Yémen à Makran, dans le détroit de Bab al-Mandeb ou encore dans la corne de l'Afrique, ce responsable yéménite a souligné « Nous avons prouvé nos compétences militaires ces dernières années, que l'entité sioniste prenne garde. Depuis 6 ans, nous sommes confrontés à une agression d'envergure qui menace notre sécurité nationale et nous avons pu résister sur terre, sur mer et dans les airs », a-t-il conclu. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.